Chapitre 20. La fin d'Homo sapiens. Au début de ce livre, j'ai présenté l'histoire comme la dernière étape en date du continuum menant de la physique à la chimie et à la biologie. Les sapiens sont sujets aux mêmes forces physiques, relations chimiques et processus de sélection naturelle qui gouvernent tous les êtres vivants. Sans doute, celle-ci a donné à l'Homo sapiens un terrain de jeu bien plus grand qu'à tout autre organisme, mais le terrain a tout de même ses limites. Autrement dit, quoi qu'il en soit de leurs efforts et de leurs réalisations, les sapiens sont incapables de se libérer de leurs limites biologiques. À l'aube du XXIe siècle, ce n'est plus vrai. Homo sapiens dépasse ses limites. Le voici qui commence à briser les lois de la sélection naturelle pour les remplacer par les lois du dessein intelligent. Pendant près de 4 milliards d'années, chaque organisme de la planète a évolué dans la soumission à la sélection naturelle. Pas un seul n'était l'œuvre d'un créateur intelligent. La girafe, par exemple, a dû son long cou à la concurrence entre girafes archaïques plutôt qu'aux caprices d'un être surintelligent. Les proto-girafes, qui avaient un cou plus long, avaient accès à davantage de nourriture et avaient donc plus de petits que celles dont le cou était plus court. Personne, et certainement pas les girafes, n'a dit « Un long cou permettrait aux girafes de mâchonner les feuilles de la cime des arbres. Étirons-le !» La beauté de la théorie de Darwin est qu'elle n'a pas besoin de supposer un créateur intelligent pour expliquer que les girafes aient hérité d'un long cou. Des milliards d'années durant, la création intelligente n'était même pas une option, faute d'une intelligence capable de concevoir des choses. Les micro-organismes, qui ont été les seuls êtres vivants pendant des milliards d'années, sont capables de prouesses stupéfiantes. Un micro-organisme qui appartient à une espèce peut incorporer dans ses cellules les codes génétiques d'une espèce entièrement différente et, ce faisant, acquérir de nouvelles capacités telles que la résistance aux antibiotiques. Pour autant que nous le sachions cependant, les micro-organismes n'ont ni conscience, ni objectif dans la vie, ni capacité de planifier à l'avance. Le moment venu, des organismes comme les girafes, les dauphins, les chimpanzés et les néandertals ont acquis une conscience et la capacité de planifier. Mais même si un Néandertal rêvait de volailles si grasses et si lentes qu'il n'aurait qu'à les ramasser quand il aurait faim, il n'avait aucun moyen de transformer cette fantaisie en réalité. Il lui fallait chasser les oiseaux issus de la sélection naturelle. La première fissure, affectant l'Ancien Régime, s'est produite voici environ 10 000 ans, au cours de la Révolution agricole. Le sapiens, qui rêvait de poulets gras et lents, découvrit que s'il accouplait la poule la plus grasse au coq le plus lent, certains de leurs rejetons seraient gras et lents. En accouplant ces derniers entre eux, on pouvait obtenir une race d'oiseaux gras et lents. Une race de poulets inconnue de la nature, œuvre du dessein intelligent d'un homme, non pas d'un dieu. En comparaison d'un dieu tout-puissant, l'Homo sapiens restait cependant limité dans ses dessins. Le sapiens pouvait se servir de la reproduction sélective afin de dévier et d'accélérer la sélection naturelle qui affectait normalement les poulets. Mais il ne pouvait introduire des caractéristiques entièrement nouvelles absentes du pool génétique des poulets sauvages. En un sens, la relation entre Homo sapiens et poulets était comparable à bien d'autres relations symbiotiques si souvent apparues spontanément dans la nature. Sapiens exerça sur les poulets des pressions sélectives qui se traduisirent par la prolifération des éléments gras et lents, de même que les abeilles pollinisatrices sélectionnent les fleurs, faisant proliférer celles qui ont les couleurs les plus vives. De nos jours, notre régime de sélection naturelle vieux de 4 milliards d'années est confronté à un défi entièrement différent. Dans les laboratoires du monde entier, les chercheurs manipulent des êtres vivants. Ils brisent, en toute impunité, les lois de la sélection naturelle. Rien ne les arrête, pas même les caractéristiques originelles d'un organisme. En l'an 2000, le bio-artiste brésilien Eduardo Cac conçut une nouvelle œuvre d'art, un lapin vert fluorescent. À cette fin, il prit contact avec un laboratoire français et, moyennant finance, le chargea de produire un lapin rayonnant suivant ses spécifications. Les chercheurs sélectionnèrent un embryon de lapin blanc ordinaire et implantèrent dans son ADN un gène de méduse verte fluorescente. Et voilà, un lapin vert fluo pour le monsieur. Cac l'appela Alba. Il est impossible d'expliquer l'existence d'Alba par les lois de la sélection naturelle. Il est le produit d'un dessein intelligent. Il est aussi annonciateur de choses à venir. Si le potentiel que représente Alba est pleinement exploité, et si l'humanité ne s'anéantit pas entre-temps, la révolution scientifique pourrait se révéler bien plus grande qu'une simple révolution scientifique. Ce pourrait bien être la révolution biologique la plus importante depuis l'apparition de la vie sur Terre. Après 4 milliards d'années de sélection naturelle, Alba se situe à l'aube d'une nouvelle ère cosmique où la vie sera régie par un dessein intelligent. Si cela arrive, c'est toute l'histoire humaine qui, avec le recul, pourrait être réinterprétée comme un processus d'expérimentation et d'apprentissage qui a révolutionné le jeu de la vie. Il faudrait alors aborder ce processus dans une perspective cosmique de milliards d'années, non pas dans une perspective humaine de quelques millénaires. Les biologistes du monde entier sont engagés dans une bataille avec le mouvement du dessein intelligent, lequel s'oppose à l'enseignement de l'évolution darwinienne à l'école et prétend que la complexité biologique prouve l'existence d'un créateur qui a pensé à l'avance tous les détails biologiques. Les biologistes ont raison pour ce qui est du passé. Paradoxalement, l'avenir pourrait bien donner raison au mouvement du dessein intelligent. À l'heure où j'écris ces lignes, le remplacement de la sélection naturelle par un dessein intelligent pourrait se produire de trois façons. Par le génie biologique, le génie cyborg, les cyborgs sont des êtres qui mêlent parties organiques et non organiques, ou le génie de la vie inorganique. Des souris et des hommes. Le génie biologique consiste en une intervention humaine délibérée au niveau biologique, l'implantation d'un gène par exemple, en vue de modifier la forme d'un organisme, ses capacités, ses besoins ou ses désirs, pour réaliser une idée culturelle préconçue comme les prédilections artistiques d'Eduardo Cac. Le génie biologique en soi n'a rien de nouveau. Voici des millénaires que les hommes y recourent pour remodeler les organismes, eux compris. La castration en est un exemple simple. Cela fait peut-être 10 000 ans que les hommes castrent les taureaux pour créer des bœufs. Ceux-ci sont moins agressifs et donc plus dociles pour qu'on les habitue à tirer des charrues. Les hommes ont aussi appris à châtrer leurs petits mâles pour créer des sopranos à la voix enchanteresse et des eunuques auxquels on pouvait confier en toute sécurité la surveillance du harem du sultan. Les progrès récents concernant le fonctionnement des organismes, jusqu'au niveau cellulaire et nucléaire, ont ouvert des possibilités voici peu encore inimaginables. Par exemple, nous savons châtrer un homme, mais aussi, désormais, changer son sexe par un double traitement chirurgical et hormonal. Mais ce n'est pas tout. Songez à la surprise, au dégoût et à la consternation qu'a provoqué en 1996 la diffusion dans la presse et à la télévision de la photo d'une vraie souris sur le dos de laquelle des chercheurs ont implanté des cellules de cartilage de bétail. Aucune manipulation sur Photoshop, la photo n'a pas été retouchée. Ils ont pu contrôler la croissance du nouveau tissu, lui donner en l'espèce une forme qui rappelle une oreille humaine. Le procédé pourrait bientôt permettre aux chercheurs de fabriquer des oreilles artificielles pour les implanter sur des hommes. On a là un mystérieux écho de la statue de l'homme-lion de la grotte Stadel. Voici 30 000 ans, les humains se laissaient déjà aller à imaginer la combinaison de diverses espèces. Parce qu'il peut accomplir des prodiges encore plus remarquables, le génie génétique soulève une foule de problèmes éthiques, politiques et idéologiques. Et les monothéistes pieux ne sont pas les seuls à voir d'un mauvais œil l'homme usurper le rôle de Dieu. Beaucoup d'athées confirmés ne sont pas moins choqués de voir les scientifiques chausser les souliers de la nature. Les défenseurs des droits des bêtes dénoncent les souffrances infligées aux animaux de laboratoire du fait des expériences de génie génétique, mais aussi aux animaux de ferme qui sont manipulés au mépris total de leurs besoins et de leurs désirs. Les militants des droits animaliers ont peur que le génie génétique ne serve à créer des surhommes qui feront de nous des cerfs. Des Jérémie nous présentent des visions apocalyptiques de biodictatures qui cloneront des soldats intrépides et des ouvriers dociles. Le sentiment dominant est que trop d'occasions s'ouvrent trop rapidement et que notre capacité de modifier les gènes est en avance sur notre capacité d'en faire un usage sage et clairvoyant. Résultat, nous n'utilisons actuellement qu'une petite fraction du potentiel du génie génétique. La plupart des organismes aujourd'hui manipulés sont ceux qui ont les lobbies politiques les plus faibles, plantes, champignons, bactéries et insectes. Par exemple, déligner des Escherichia coli, de cette bactérie qui vit en symbiose dans nos boyaux, mais qui fait les gros titres de la presse quand elle en sort et cause des infections mortelles, ont été génétiquement manipulés pour produire du biocarburant. Escherichia coli et plusieurs espèces de champignons ont aussi été trafiqués afin de produire de l'insuline et abaisser ainsi le coût du traitement du diabète. Un gène extrait d'un poisson de l'Arctique a été inséré dans des pommes de terre afin de les rendre plus résistantes au gel. Quelques mammifères ont également été sujets à des manipulations génétiques. Chaque année, l'industrie laitière perd des milliards de dollars du fait de la mastite, une maladie qui affecte le pis des vaches laitières. Les chercheurs expérimentent actuellement des vaches génétiquement modifiées dont le lait contient de la lysostaphine, une substance biochimique qui attaque la bactérie responsable de la maladie. L'industrie du porc, qui a souffert d'une baisse de ses ventes parce que les consommateurs se méfient des mauvaises graisses du jambon et du bacon, place ses espoirs dans la création d'une lignée encore expérimentale de porc auquel on a implanté le matériau génétique d'un ver. Avec les nouveaux gènes, les porcs transforment l'acide gras oméga-6 en oméga-3, son cousin sain. Pour le génie génétique de la génération suivante, fabriquer des porcs qui ont des bonnes graisses sera un jeu d'enfant. Les généticiens ont réussi non seulement à sextupler l'espérance de vie moyenne des vers, mais aussi à produire des souris géniales qui ont une mémoire et des capacités d'apprentissage meilleures. Les campagnols sont de petits rongeurs énergiques qui ressemblent aux souris. Si la plupart des variétés vivent dans la promiscuité, il est une espèce dans laquelle mâles et femelles forment des relations monogames durables. Les généticiens assurent avoir isolé les gènes responsables de la monogamie du campagnol. Si l'ajout d'un gène peut transformer un don juan campagnol en mari fidèle et attentionné, sommes-nous si loin du jour où nous pourrons manipuler génétiquement les capacités individuelles des rongeurs et des hommes, mais aussi leur structure sociale. Le retour des Néandertals. Mais les généticiens ne veulent pas seulement changer des lignages vivants. Ils cherchent aussi à ressusciter des créatures éteintes. Et pas simplement des dinosaures, comme dans Jurassic Park. Une équipe de chercheurs russes, japonais et coréens a dernièrement cartographié le génome de mammouths découverts gelés dans les glaces sibériennes. Ils envisagent maintenant de prélever un œuf d'éléphante fécondé, de remplacer son ADN par de l'ADN reconstitué de mammouth pour implanter ensuite l'œuf dans la matrice d'une éléphante. Au bout de 22 mois, ils espèrent voir naître le premier mammouth depuis 5000 ans. Mais pourquoi s'arrêter au mammouth ? Le professeur George Church de Harvard University a dernièrement fait une autre suggestion. Avec l'achèvement du projet génome de Néandertal, nous pouvons désormais implanter de l'ADN de Néandertal dans un œuf de sapiens et produire ainsi le premier enfant Néandertal depuis 30 000 ans. Church a assuré pouvoir le faire pour la somme dérisoire de 30 millions de dollars. Plusieurs femmes se sont déjà déclarées volontaires pour servir de mère porteuse. Mais qu'avons-nous besoin de Néandertal ? Si nous pouvions étudier des Néandertals vivants, affirment certains, nous pourrions répondre à certaines des questions les plus lancinantes sur les origines et l'unicité d'Homo sapiens. En comparant un cerveau de Néandertal à un cerveau d'Homo sapiens et en dressant l'inventaire de leurs différences, peut-être pourrions-nous identifier le changement biologique qui a produit la conscience telle que nous la connaissons. Mais il y a aussi une raison éthique. D'aucuns ont soutenu que si Homo sapiens était responsable de l'extinction des Néandertals, c'était un devoir moral de les ressusciter. Il pourrait être utile d'avoir des Néandertals dans les parages. Beaucoup d'industriels seraient ravis de payer un Néandertal pour accomplir les tâches subalternes de deux sapiens. Mais pourquoi s'arrêter au Néandertal ? Pourquoi ne pas remonter à la planche à dessin de Dieu pour concevoir un meilleur sapiens ? les capacités, les besoins et les désirs d'Homo sapiens ont une base génétique. Et le génome de sapiens n'est pas plus complexe que celui des campagnols et des souris. Le génome de la souris contient environ 2,5 milliards de bases nucléiques, celui du sapiens autour de 2,9. Autrement dit, la différence n'est que de 14%. À moyenne échéance, dans quelques décennies peut-être, le génie génétique et d'autres formes de génie biologique pourraient nous permettre d'apporter des altérations de grande ampleur à notre physiologie, à notre système immunitaire et à notre espérance de vie, mais aussi à nos facultés intellectuelles et émotionnelles. Si le génie génétique peut créer des souris géniales, pourquoi pas des génies humains? S'il peut créer des campagnols monogames, pourquoi ne pas câbler les humains en sorte qu'ils restent fidèles à leur partenaire? La révolution cognitive, qui transforma l'Homo sapiens de singe insignifiant en maître du monde, ne nécessitait pas un changement physiologique notable, pas même un changement du volume et de la forme extérieure du cerveau du sapiens. Il semble qu'elle n'ait impliqué que de menus changements dans la structure interne du cerveau. Peut-être un autre petit changement suffirait-il à amorcer une seconde révolution cognitive et à créer un type entièrement nouveau de conscience pour transformer l'Homo sapiens en un être totalement différent. Nous manquons certes encore de flair pour y parvenir, mais il ne semble pas qu'une barrière technique insurmontable nous sépare de la production de surhommes. Les principaux obstacles sont des objections éthiques et politiques qui ont ralenti la recherche sur les hommes. Et si convaincants que puissent être les arguments éthiques, on voit mal comment ils pourraient retarder durablement l'étape suivante, surtout si l'enjeu est la possibilité de prolonger indéfiniment la vie humaine, de guérir des maladies incurables et de rehausser nos capacités cognitives et émotionnelles. Que se passerait-il, par exemple, si nous trouvions un remède à la maladie d'Alzheimer, dont un bénéfice secondaire serait d'améliorer spectaculairement la mémoire des gens sains? Quelqu'un pourrait-il arrêter la recherche en question? Et une fois le traitement au point, un conseil de l'ordre quelconque pourrait-il le réserver aux patients d'Alzheimer et empêcher les gens sains d'acquérir des super-mémoires? On ne sait pas trop si la biogénie pourrait effectivement ressusciter des Néandertals, mais très probablement abaisserait-elle le rideau sur l'Homo sapiens. Bricoler nos gènes ne nous tuera pas nécessairement, mais nous pourrions bien tripatouiller l'Homo sapiens au point que nous ne saurions plus l'Homo sapiens.